Vous êtes sur RTL.
J'ai demandé au service de police de multiplier les patrouilles le long de la Deule, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On a constaté que dans les deux premières affaires, l'alcool et les produits stupéfiants étaient présents en quantité relativement importante dans le corps des victimes.
Bonsoir. En matière criminelle, la loi des séries est toujours suspecte. Pour les familles, les amis, il est difficile de croire au hasard, à une simple suite de tragiques coïncidences. Les morts de la Deule ne font pas exception à cette règle. Entre octobre 2010 et novembre 2011, les corps de 5 hommes sont repêchés dans cette rivière qui traverse l'île pour aller se jeter un peu plus loin dans la Lys. Des décès rapidement imputés à l'abus d'alcool, 4 chutes accidentelles dans l'eau glacée, un suicide selon le parquet de Lille qui ne détectera rien de suspect dans ces affaires. Les proches des victimes, eux, ne vont jamais croire à cette version. La suite va leur donner en partie raison quand le dossier va prendre une toute autre dimension, criminelle celle-ci. C'est cette enquête, les morts de la Deule à Lille, que nous allons explorer ce soir à la faveur de la sortie d'un livre très documenté sur le sujet, signé Thomas Status, l'un de nos invités. Nous allons essayer de savoir pourquoi les investigations ont été aussi hésitantes et pourquoi aujourd'hui encore, 10 ans après les faits, le mystère persiste et les questions abondent. Les morts oubliés de la Deule, meurtre ou accident, où se cache la vérité? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire des noyés de la Deule. 5 cadavres repêchés, une série macabre, sans témoin, qui commence au centre de l'île au cours d'une nuit froide de l'automne 2010. Ce mercredi 6 octobre 2010, vers 22h, John Annie, opérateur technique chez SFR, il travaille dans un call center, quitte son studio au numéro 41 de la rue Masséna. Ce célibataire, âgé de 33 ans, ne cache pas son homosexualité. C'est un habitué de la nuit lilloise, mais sans excès. Il n'a jamais fait parler de lui et ne s'est jamais fait remarquer pour de quelconques frasques. Ce soir-là, il retrouve des amis pour passer la soirée dans l'appartement de Louise, une connaissance qui habite près de chez lui. Une autre fille, Marie, et un jeune homme, Igor, sont aussi là pour partager quelques verres. La fête se termine. À 4h du matin, Louise déclare qu'elle veut aller se coucher. John Annie a beaucoup bu, mais personne ne le voit tituber ou chanceler. Il emporte avec lui une dernière bouteille de bière et rentre seul, à pied, chez lui. Il s'enfonce dans la nuit. Plus personne ne va le revoir. Le frère cadet de John, Joe Annie, s'inquiète rapidement de cette absence. Il n'est pas dans les habitudes de John de disparaître ainsi. Il est ponctuel dans son travail où il vient d'ailleurs d'obtenir une promotion. Joe fait le tour des relations de son frère, questionne les dernières personnes à l'avoir vu. Il finit par lancer des appels à témoins et même à placarder dans le vieux Lille et les gares de la ville des affichettes portant le visage souriant de John. Le commissariat de Lille est alerté de cette disparition inquiétante, mais le signalement n'a pas vraiment le temps d'être diffusé. Le 11 octobre, 5 jours après la disparition, le corps de John Annie émerge à 15h30 des eaux opaques du canal de la Deule. Les premières constatations de l'autopsie indiquent que la victime ne porte pas de traces de coups ou de fractures. Les stigmates relevés sur le crâne seraient dus à une chute. L'homme aurait heurté le fond du canal en tombant. Le visage est recouvert de vase, le corps est gonflé, l'heure du décès correspond à la date de la disparition. Une analyse montre la présence de 2,21 g d'alcool par litre de sang. De toute évidence, John Annie était ivre, a perdu l'équilibre, a glissé. Dans son état, il lui a été impossible de remonter à la surface. L'endroit où la victime est tombée est tout proche d'un petit parc, lieu de promenade pour les familles le jour, lieu de drague homosexuelle la nuit. Interrogation tout de même, John Annie ne fréquentait pas du tout ce lieu interlope. Il n'avait pas à passer par là pour rejoindre son appartement. Bonsoir Thomas Status.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et auteur du livre « Les morts de la Deule », une enquête dans le Nord, collection Les Invisibles, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Un livre, je le disais en préambule, très documenté, très bien fait et très intéressant, qui nous emmène dans une histoire tout à fait incroyable. Un petit mot déjà pour commencer, « Les morts de la Deule », 5 morts, très longtemps oubliés. Pourquoi ? Finalement, on n'en a pas beaucoup parlé de cette histoire.
Alors, on en a parlé à l'époque, c'est une histoire qui a eu quand même un retentissement pour toute une génération de personnes dont je fais partie, qui ont grandi dans le Nord à cette époque-là. Mais on va dire que à l'époque, la communication qui en a été faite par le parquet et la couverture qui en a été faite dans la presse tendaient tous à dire un peu la même chose, à savoir, comme vous l'avez dit, un peu circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, la réponse principale qui était apportée à l'époque était celle de l'alcoolémie, comme vous l'avez noté.
C'est ça.
Et ensuite, finalement, d'une sorte de, on va dire, de succession un peu fortuite d'accidents.
Voilà. C'est-à-dire qu'on se dit, ce sont des jeunes qui ont trop bu, point barre, voilà, donc c'est pas de chance, mais c'est une série comme ça qui peut exister, même si ça paraît tout à fait spectaculaire. Franck Hanson, bonsoir.
Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes notre correspondant dans la région du Nord, cette belle région qu'on adore, et vous êtes basé à Lille pour RTL. En quelques mots, Franck, vous connaissez très bien ce dossier, vous l'avez traité, et puis vous connaissez bien l'endroit. La Deule, c'est presque le personnage central de cette histoire. À quoi ça ressemble ?
Bien, écoutez, c'est une rivière qui part du Pas-de-Calais, qui longe plusieurs quartiers lillois, notamment le Vieux-Lille et le parc de la Citadelle. C'est l'un de ses poumons verts ici. C'est un lieu de promenade bien connu des joggeurs, des familles. C'est un canal qui est large d'une vingtaine de mètres. C'est une atmosphère très bucolique, hein, finalement, un lieu de promenade tranquille. Ça traverse un petit peu la ville et bien connu, je le disais, donc des familles, mais aussi des étudiants, des gens qui fréquentent ici le monde de la nuit, parce que c'est proche du quartier de la Cato et des bars.
Et du Vieux-Lille, c'est aussi, ça hein.
Exactement, hein. Oui, c'est le Vieux-Lille avec ses cafés et ses lieux de rencontre aussi. Certains, pour le soir, les berges, c'est un peu aussi un lieu de rencontre, lieu de drague pour certains. Quoi.
Un quartier animé. Encore une petite question, Franck. À l'époque, cette noyade de John Annie, elle fait du bruit ou pas de bruit ? Pas tellement, finalement.
Honnêtement, non. À part quelques échos dans la presse locale, on n'en entend pas trop parler. Il y a ses proches, évidemment, qui s'en inquiètent. Mais bon, John Annie, vous l'avez dit, avait 33 ans, c'était pas un mineur. Il faut attendre les prochaines victimes hein, pour que l'affaire s'emballe, en quelque sorte.
Et quoi. Ça, on va y venir, évidemment, dans les chapitres suivants. Thomas Status, je reviens vers vous. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime. Qui est, un peu plus précisément, John Annie ? C'est quelqu'un qui se fait pas remarquer. C'est un fêtard, mais enfin, comme il y en a des dizaines.
Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas un historique avec la justice, du moins. C'est quelqu'un, effectivement, qui est un fêtard, qui a un groupe d'amis, qui vit, comme vous le disiez, rue Masséna, qui est la rue la plus fêtarde un petit peu de Lille, cette rue étudiante où il y a beaucoup de bars. C'est quelqu'un qui aime sortir le week-end et d'ailleurs le soir de sa disparition était dans l'appartement d'une connaissance pour boire des verres.
C'est ça. Et il n'a pas prévu, ça parce que vous avez mené une enquête très précise sur le sujet, mais il n'a pas prévu, John Annie, une fois que cette soirée est terminée, d'aller où que ce soit. Il va rentrer chez lui.
Alors, d'après ce qui a été dit à l'époque par les témoins de l'affaire, non, ça, c'est pas ce qu'ils disent. En revanche, c'est ce qu'a assez vite soutenu son frère, Giovanni, en disant qu'effectivement, pour lui, sa version était qu'il n'était pas impossible qu'il ait pu, sur le chemin faisant, on pourrait dire, croiser quelqu'un et que quelque chose de fortuit soit arrivé
oui,
ce soir-là.
On est d'accord, il a pu, évidemment, la mauvaise rencontre est toujours possible, mais lui, son objectif, finalement, c'est de rentrer chez lui après avoir bu avec ses potes, on peut le dire comme ça.
Alors, c'est ce qu'il a dit, mais en revanche, effectivement, oui, il est parti après, avec une bouteille et donc, et, il y a
évidemment,
ce doute-là.
Tout peut se passer. Vous parlez de son frère. Pourquoi il y a des doutes tout de suite, dès que John disparaît.
Il y a des doutes assez rapidement sur cette histoire qui on peut l'imaginer effectivement dans une disparition telle que celle de Jonani est peut-être la disparition les plus incompréhensibles pour une famille aussi. C'est-à-dire, c'est une disparition sans témoin, c'est une disparition sans trace de coup.
Une apparente. Évaporation.
Voilà. Donc, évidemment, assez rapidement, il y a une grande inquiétude. Et puis, surtout, effectivement, il n'y a pas une grande couverture de presse. En revanche, il y a une grande inquiétude assez rapidement dans la communauté homosexuelle, où le bruit se répand comme une traînée de poudre, que, effectivement, ce ne serait pas impossible que cette agression soit liée à des agressions homophobes.
Homophobes, c'est ça. Il y aurait un chasseur d'homosexuels qui s'est viré dans le coin, c'est ça.
Parce que, évidemment, oui, comme vous le dites, le parc où Jonani est retrouvé, enfin, du moins à proximité, qui s'appelle le jardin Vauban, est un lieu pas du tout anodin pour la communauté homosexuelle. C'est un lieu de rencontre qui est connu. Il y a même une association qui a pour but de faire de la prévention et de défendre les usagers du jardin. Et donc, évidemment, très rapidement, il y a une forte inquiétude, du moins dans cette communauté homosexuelle, où il y a des appels à témoins. D'ailleurs, sur Facebook, on demande est-ce que, à votre connaissance, il y a eu d'autres agressions homosexuelles qui se sont déroulées, avec des remontées d'informations. Alors, pas forcément confondant dans le sens où il n'y a pas eu de dépôt de plainte, mais des gens témoignent effectivement qu'ils ont eu mal à partir avec des gens à l'époque dans ce jardin Vauban.
Des interrogations et déjà l'amorce de suspicion. Les proches de Jonani sont circonspects. Les affichettes portant son visage radieux disparaissent des devantures. 3 mois plus tard, la Deule va à nouveau faire parler d'elle. Les morts oubliés de la Deule, des victimes qui se suivent et se ressemblent. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire des noyés de la Deule à Lille. En 2010 et 2011, une première disparition et un premier corps repêché. 3 mois plus tard, les eaux du canal vont révéler 2 autres victimes, 2 hommes jeunes. Le 6 février 2011, Thomas Ducrot, 26 ans, passe une soirée très festive qui a commencé chez des amis dans le Vieux-Lille. Il est accompagné de Céline, sa compagne. Thomas boit et consomme un peu de cocaïne. La fête est partie pour durer toute la nuit. Aux alentours de minuit, le groupe se sépare, les filles décident d'aller boire des verres dans un bar, les garçons se rendent dans un pub, puis dans un bar très connu du secteur, le Privilège. Les tournées s'enchaînent, l'alcool coule à flot. On retrouvera 1,85 g d'alcool dans le corps de Thomas Ducrot, ainsi que de la cocaïne. Les amis finissent par se perdre de vue. Thomas Ducrot, manifestement ivre, marche seul en direction de la Deule. Il va traverser un secteur où, cette nuit-là, beaucoup de bagarres seront signalées, et puis il disparaît. Dans les jours qui suivent, les amis de Thomas et sa compagne Céline distribuent des affichettes et arpentent les rues de Lille pour savoir si quelqu'un a vu le jeune homme. Alors que Thomas Ducrot demeure introuvable, un troisième jeune homme va s'évaporer. Le 20 février, Jean Mériadec Le Tarnec, 22 ans, étudiant à l'Université catholique de Lille. À croire que ces disparitions sont calquées les unes sur les autres. Vers 6h du matin, après une fête passée avec une dizaine d'amis de la fac, Jean Mériadec décide de ne pas dormir sur place et de rentrer chez lui à pied. Personne dans les rues de Lille un dimanche matin. Un camarade l'accompagne, puis ils se séparent à hauteur de la rue de la Barre, presque au même endroit où Thomas Ducrot a disparu. L'alerte est donnée dès l'après-midi par son frère, qui n'a pas de nouvelles. Jean Mériadec Le Tarnec a peut-être fait la fête et bu ce soir-là, mais c'est un étudiant ultra sérieux qui a les pieds sur terre et garde le cap dans toutes les occasions. Les autorités commencent alors à se poser des questions sur cette série de disparitions. Le procureur de Lille, Frédéric Fèvre, saisit la police judiciaire, la brigade criminelle, dans les 3 affaires. Annie, Ducrot, Le Tarnec. Je voulais montrer l'importance que j'attachais à ce dossier, confiera plus tard le procureur. Les enquêteurs se déploient dans Lille, frappent à toutes les portes, examinent chaque piste comme celle de ce marginal, un SDF qui affirme un jour être le tueur de la Deule. Fausse piste. Les pompiers plongeurs sondent les eaux boueuses de la Deule, température 6 degrés. Le 23 février, le corps de Thomas Ducrot est repéré et retiré de la rivière. 2 jours plus tard, le cadavre de Jean Mériadec Le Tarnec est également extrait du canal. Les 2 jeunes hommes sont tombés dans l'eau au même endroit, en un lieu où ils n'avaient rien à faire. Le procureur annonce dans les deux cas que les victimes ne portent pas de traces d'agression. La piste accidentelle est privilégiée. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, dit le magistrat. Franck Hanson, vous êtes en ligne depuis notre bureau RTL de Lille. Je viens de citer le procureur. Aucune raison de s'inquiéter. Je suppose pourtant qu'à cette époque, on commence à se poser beaucoup de questions sur place.
Oui, exactement. Ça commence à faire beaucoup, hein, ces deux nouvelles disparitions, ces deux nouvelles noyades. Ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment dans la communauté étudiante, dans la communauté homosexuelle. Le procureur Frédéric Fèvre essaye de gérer cette psychose qui commence à monter, ces rumeurs qui enflent. Mais il répète pourtant qu'il n'y a pas de traces suspectes de coups qui peuvent laisser penser à un crime. Les corps ne présentent pas de lésions. L'autopsie exclut toute intervention extérieure. D'ailleurs, pour eux, vraiment, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de trace criminelle
significative. En fait. Significative. Alors bien sûr, pas de trace visible, pas de trace d'agression, mais quand on pousse quelqu'un dans le dos, ça ne laisse pas de trace. Alors, est-ce qu'un maniaque, à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui rôderait autour de la Deule en essayant de pousser
c'est
des jeunes gens?
C'est les questions qui se posent. Hein. Les étudiants, d'ailleurs, commencent à se mobiliser, ils veulent savoir, ils se disent que, bon, voilà, ça commence à faire beaucoup, il y a une certaine psychose qui monte, hein. Mais pour les autorités judiciaires notamment, ce serait l'alcool qui serait finalement la raison de ces dérives. Parce que c'est vrai que la Deule, c'est pas la première fois qu'il y a des noyés, des causes accidentelles. Hein, mais bon, voilà, rien qui laisse supposer une intervention extérieure.
Franck, justement, vous évoquez l'alcool. Je crois que même le directeur de la police, en fait, de la sûreté publique lilloise, va prendre des mesures contre le binge drinking, là, hein, c'est-à-dire.
Ouais, tout à fait, même avec même avec la mairie de Lille, hein, y a des mesures qui sont prises pour sensibiliser un petit peu les jeunes sur les excès de ces nuits étudiantes pour éviter un petit peu trop de
dérives,
trop d'alcool,
etc.
Trop de dérives. Voilà, c'est ça. Hein, y a des mesures, des campagnes de sensibilisation un petit peu. Même les patrons de café sont associés, notamment dans le vieux Lille ou dans le secteur Masséna, le secteur Solferino qui est pas loin de ces berges de la Deule. Voilà, il y a une sorte de campagne qui se développe pour essayer de faire oublier cette psychose, ces peurs qui enflent malgré tout toujours.
Thomas Status, notre invité ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, on peut dire Thomas que l'affaire commence réellement à ce moment-là avec ses deuxièmes et troisièmes morts.
Ouais, on est en tout cas pas loin d'être au pic médiatique, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a une attention très importante de la part de la presse, qu'elle soit locale ou nationale, avec des équipes de télévision qui sont dépêchées sur le lieu des fous. Je veux dire, chaque rebondissement donne lieu à un nouvel article, à un suivi très précis de la presse. Et il faut dire, c'est pas un hasard, parce que Thomas Ducrot est une personnalité connue de Lille. C'est le gérant d'un magasin de moto qui est assez connu dans le centre-ville, à côté de la place de la République, là où il y a à la fois le Palais des Beaux-Arts et la préfecture. Donc c'est une figure connue.
Sa famille est connue aussi. Hein,
ouais. C'est une figure assez connue de la ville, connue assez de manière assez amusante par des amis à moi, par exemple. Donc c'est vrai que les choses se rejoignent. Et Jean-Marie Adec-Letarnac est étudiant à la faculté catholique de Lille, qui est la plus grande faculté catholique de France. Et évidemment, le milieu étudiant dans ce cas-là agit un peu comme une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'il y a des marches blanches qui se succèdent, il y a des appels à témoins, et il y a une vive inquiétude de la part des étudiants.
Quels sont les points étranges, si je puis dire, dans ces deux derniers cas? Qu'est-ce qui fait tiquer tout le monde?
Je pense que les points étranges dans ces deux derniers cas sont un peu à l'image des points qu'on peut retrouver dans toutes ces affaires, c'est-à-dire la présence tard la nuit, non loin du même lieu, de personnes qui finissent au même endroit, à savoir noyées dans la Deule.
Ça, c'est extrêmement troublant, parce qu'effectivement, on retrouve les corps quasiment l'un à côté de l'autre, au même endroit.
On les retrouve à côté d'un pont qui s'appelle le pont du Petit Paradis, donc effectivement, face à la façade de l'Esplanade, donc qui est ce boulevard qui longe la Deule. Et effectivement, oui, c'est assez troublant, surtout, je pense, dans le cas de Jean-Marie Adec-Letarnac, parce que effectivement, ses amis racontaient une soirée alcoolisée, d'ailleurs l'alcoolémie le prouve, mais les témoignages sont assez d'équerre sur ce cas-là, à savoir qu'il avait consommé de l'alcool, mais il n'était pas hors de, oui. de lui-même. Il n'était pas complètement ivre, d'après les récits qui en été faits à l'époque. Il y a ça, et évidemment, et pour Thomas Ducroux, il y a aussi le fait que donc la soirée se finit, ses amis partent en boîte de nuit et laissent Thomas seul dans la rue. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup raconté à l'époque dans les articles de presse. Mais les relevés de bornage montrent qu'en fait, Thomas Ducroux est encore dans le quartier quasiment 40 minutes. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on se pose, à savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là et pourquoi, évidemment, il est allé vers cette direction qui n'était pas celle qu'il devait suivre.
Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoin.
Il n'y a pas de témoin, non.
Des accidents causés par un abus d'alcool, peut-être, mais les coïncidences sont tout de même troublantes. Qui plus est, la série noire n'est pas terminée. Deux autres victimes vont bientôt être signalées.
L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir dans l'heure du crime, les morts mystérieuses du canal de la Deule à Lille. Trois jeunes hommes ont été retrouvés noyés à quelques semaines d'intervalle. La police va se retrouver avec deux autres cas sur les bras. Le 22 septembre 2011, alors que le dossier des trois morts de la Deule fait toujours l'objet d'investigations, Lloyd Andrieux, 19 ans, étudiant à la Cato de Lille, comme Jean Mériadec, le Tarnec, est de sortie dans le quartier Solferino. Il y retrouve des amis et des copines. Il boit plusieurs verres, puis vers 2h30, disparaît. Il aurait marché en direction de la Deule, alors que, comme beaucoup d'étudiants, il évitait systématiquement ce secteur depuis la série de disparitions. À l'époque, la psychose règne au sein de la jeunesse lilloise qui aime faire la fête. Pourquoi avoir pris cette direction? Le 27 septembre, le corps de Lloyd Andrieux est retiré de la Deule, à l'aval du parc zoologique, en direction de l'Anversar, à 1 km environ des précédents corps. L'autopsie ne peut pas conclure à une véritable noyade. Hydrocution, détresse respiratoire, crise cardiaque, impossible d'être précis. La famille de cet étudiant, joyeux, amical et bien décidé à réussir son année scolaire, ne croit pas à la thèse de l'accident. Elle estime que Lloyd a été poussé à l'eau. Moins de deux mois plus tard, dans la nuit du 11 au 12 novembre, le guitariste Hervé Ribarzik, 42 ans, est sur la scène de La Chimère, une petite salle de Lille. Il donne un concert punk rock avec son groupe Les Ashtones. Une fois le spectacle terminé, vers 2h, et après avoir discuté avec les autres musiciens, il s'apprête à rentrer chez lui. Il n'a que 700 mètres à faire pour retrouver sa compagne, Dorothée. Vers 2h30, il se trouve au bord de la Deule alors qu'il n'a rien à y faire. Personne ne peut expliquer ce détour. Le corps du musicien est retrouvé 12 jours plus tard, le 23 novembre, près du port fluvial. Cette fois, le procureur ne saisit pas la police judiciaire comme il l'a fait pour les quatre précédents cas de disparition et noyade. Le parquet estime tout bonnement que Hervé Ribarzik s'est suicidé. Le guitariste était dépressif. Il avait perdu un frère et avait du mal à s'en remettre. La famille et les amis de la victime ne croient pas à la thèse du suicide. Trop d'invraisemblances. Ribarzik allait bien et qui plus est, il n'avait rien à faire au bord du canal cette nuit-là. Au mois d'avril 2014, et alors que la série tragique semble s'être arrêtée, le procureur de Lille annonce le classement sans suite de l'enquête préliminaire ouverte sur la mort de quatre hommes dans la Deule. Le cinquième cas, le cas Ribarzik, considéré comme un suicide, a été écarté de la liste. Aucun élément ne laisse penser à des faits de nature criminelle, indique Frédéric Fèvre au journal La Voix du Nord. Pas de violence, pas de témoins, tout accrédite, selon le magistrat, l'hypothèse de décès accidentel dû à une hyperalcoolisation, des soirées arrosées qui auraient conduit les fêtards à tomber dans la Deule. Thomas Status, auteur du livre « Les morts de la Deule », vous avez mené une très longue enquête sur cette histoire que nous racontons ce soir dans l'heure du crime. Alors, un mot tout d'abord sur Lloyd Andrieux. Est-ce que c'est un cas qui ressemble réellement aux autres ?
Il ressemble aux autres parce qu'il y a une unité de lieu. Encore une fois, c'est vrai que c'est à quelques centaines de mètres de là où sont tombés les autres, mais du moins c'est vraiment dans une zone géographique assez réduite. Il y a une unité d'activité, je sais pas si c'est le bon terme, à défaut d'en trouver un autre, mais du moins il était sorti ce soir-là, effectivement, dans les rues de Lille, plus ou moins au même endroit, à savoir ce centre-ville coincé entre Oisem et donc un quartier plutôt populaire et la place de la République, là où il y a la préfecture. Et effectivement, il ressemble dans le sens où, pareil, pas de témoins et pas de réponse ce soir-là. Et la même inquiétude, évidemment, chez les familles qui se posent la question de ce qui a pu bien se passer.
Ouais, c'est ça. Et je crois que vous avez d'ailleurs rencontré la famille de Lloyd Andrieux. Vous avez rencontré, évidemment, beaucoup de proches dans cette enquête, mais particulièrement cette famille qui n'a, peut-être sans doute aujourd'hui encore, jamais compris ce qui a pu se passer.
Non seulement ils n'ont jamais compris ce qui a pu se passer, donc la famille de Lloyd Andrieux, et notamment sa maman qui s'appelle Marie-Georges, mais aussi, et c'était un des projets du livre, et je trouve qu'il est assez frappant sur ce point-là, c'est ce cas-là montre à quel point aussi la justice peut être vécue comme quelque chose de violent, pour aussi des familles qui ne sont pas habituées à la procédure judiciaire, qui forcément ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, cet engrenage où les policiers entendent. Et...
Parce qu'il y avait une absence de communication aussi, on ne leur disait pas ce qui se passe, c'est toujours très compliqué pour les familles, hein, pour les parties civiles, c'est toujours quelque chose de très très compliqué.
Je pense que c'est, on ne leur expliquait pas, et surtout je pense qu'ils ont pris aussi évidemment des choses qui peut-être paraissent normales dans le cadre d'une enquête qui est ouverte, une enquête judiciaire, mais qu'eux ont vécu comme très suspect, c'est-à-dire on leur demande des habits de Lloyd pour vérifier l'ADN, et c'est quelque chose, je pense, d'assez traumatisant pour une mère qui vient de perdre son enfant. Et évidemment, c'est quelque chose, moi, qui m'avait frappé la première fois que j'ai rencontré Marie-Georges et qu'on a échangé sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'impression de ne pas forcément s'appartenir dans ces jours-là, et d'une grande, grande violence. Alors évidemment, je ne pense pas que les policiers et la justice l'aient fait à dessein, mais c'est aussi un retour sur la manière dont ça se passe.
Bien sûr que non, mais c'est une mort brutale, et puis le point d'interrogation, effectivement, est très, très lourd à porter. Franck Hanson, le parquet de Lille n'a jamais varié, c'est l'alcool qui est à l'origine de ces morts.
Oui, effectivement, hein, le procureur Frédéric Fèvre est resté droit dans ses bottes, en quelque sorte. Hein, c'est vraiment l'absence d'éléments criminels qui étaient privilégiés. Donc voilà, c'est vraiment l'alcool qui domine, selon eux, la thèse principale pour expliquer ces noyades, les abus, entre guillemets, de certains étudiants, même si les doutes, là, pour le coup, commencent vraiment à se développer. Je me souviens d'avoir été sur les berges de la Deule, près du parc de la Citadelle, quand le corps de Lloyd Andrieux a été retrouvé. Nouveau, les bâches qui sont posées le long de la Deule, vraiment une ambiance très lourde, très pesante, et les jeunes, les étudiants qui traînaient dans le secteur, qui disait là vraiment ça commence à faire beaucoup, et malgré tout les autorités judiciaires persistaient à dire que finalement il n'y a pas de traces matérielles, quoi, il n'y a pas d'indices matériels qui laissaient accréditer une hypothèse criminelle, quoi.
Ouais, c'est un cortège macabre au sein d'une ville qui est sûrement très lourd à porter. Vous le disiez, les spéculations, Franck, en quelques mots, elles vont continuer, hein, on va pas croire ce que dit le procureur, c'est comme ça, on dit c'est pas possible.
En quelque sorte, il y a les psychoses, la rumeur qui continue d'enfler, même si pour autant la gendarmerie qui là a été saisie continue de gérer le dossier. Officiellement, c'était pour poser un regard neuf sur cette enquête, mais voilà, la thèse, l'hypothèse qui était privilégiée restait la thèse accidentelle, si ce n'est que il y a eu des mesures qui ont été prises, hein, tout de même à cette époque, suite à ces noyades, officiellement des accidents. Il y a eu des aménagements en matière de sécurité.
Des barrières, etc.
Voilà,
des filins.
De ligne de vie, en fait.
Voilà, c'est ça. Des fils de survie.
Pour que les gens qui tombent dans l'eau puissent au moins
s'accrocher.
Se retenir à quelque chose, quoi. Voilà, c'était une sorte de grosse corde qui passait entre des anneaux sur les berges de la Deule. Parce que si vous tombiez dans l'eau, vous ne pouviez pas remonter. Là, l'idée, c'était de dire que les jeunes qui étaient tombés, ils étaient en train d'uriner et hop, ils sont tombés. Voilà. Et donc, au moins, il y a eu des aménagements, des lignes de vie qui ont été faites via les voies navigables de France à l'époque.
Thomas Status, il y a cette histoire du guitariste Hervé Ribarzik. Alors là, c'est un suicide. Et, le dossier, il est tout de suite écarté par le procureur de Lille. Dites-nous, est-ce qu'il y a des éléments troublants dans ce suicide ?
Il y a des éléments troublants, parce qu'effectivement, là, pour le coup...
Il n'est peut-être pas si suicidaire que ça, déjà.
Déjà, il n'est pas très suicidaire, d'après ce que disent ses proches, notamment à cette période de sa vie. Et puis surtout, il n'a rien à faire là, et c'est probablement ceux qui avaient le moins loin à aller, à savoir qu'il avait à passer deux rues, tout simplement, pour rentrer chez lui, et qu'il n'a aucune raison de se retrouver là où on l'a retrouvé, à savoir dans une zone assez inhospitalière du canal de la Deule.
faute d'éléments suspects, les décès de la Deule vont donc être classés accidentels. L'affaire va être classée, même si elle continue à alimenter quelques rumeurs, à attiser les spéculations. Elle n'est pourtant pas terminée. 3 ans plus tard, un coup de théâtre. Les morts oubliés de la Deule à Lille, 4 accidents et un suicide. Pas si sûr, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL.
RTL, on marque un petit stop avec l'arrivée du Vendée Globe.
Oui, on l'a suivi en fil rouge tout au long de la soirée. Après 80 jours, 6 heures et 15 minutes en mer, Charlie Dalin vient de franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. On ne sait pas en revanche si le Normand remportera la course. Des bonifications doivent être accordées aux skippers qui se sont déroutés pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Plus d'informations à venir sur RTL.
Merci Aude Vernuccio, à tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir aux morts de la Deule à Lille en 2010 et 2011. 4 accidents et un suicide, selon la justice. 3 ans après le classement sans suite du dossier, soudainement, la piste criminelle est de nouveau d'actualité. Les 25 et 26 avril 2017, 4 individus sont interpellés dans les Hauts-de-France. 3 d'entre eux, âgés de 24 à 28 ans, sont liés à l'ultra-droite. Un coup de filet déclenché par le juge lillois Jean-Michel Gentil. Ces personnes étaient recherchées pour des violences. L'une d'elles pourrait être impliquée dans l'agression de clients du bar gay Le Vice et Versa à Lille. Mais la mise en examen de ces 3 hommes va bien au-delà de simples bagarres. Ils sont poursuivis pour violence en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec préméditation ou guet-apens et avec arme. Le juge les interroge en fait sur le 5e mort de la Deule, le guitariste. Dossier où la justice avait conclu à un suicide. C'est une enquête sur un groupuscule néo-nazi, le WWK, le White Wolves Clan, le clan des loups blancs qui a relancé l'affaire. Sur une écoute téléphonique, le chef de ce groupuscule, Jérémy Mourin, alors en prison, indique qu'il a tué un homme à Lille et ajoute « pourvu que le juge n'aille pas trop chercher dans ma période lilloise ». La section de recherche de la gendarmerie de Lille interroge l'un des interpellés, un certain Johan Muth, figure de l'ultra-droite lilloise. Son nom était déjà sorti au début de l'enquête Rybak-Zik. 5 mois après la découverte du corps, Muth avait été effectivement convoqué au commissariat de Lille avec 2 autres militants ultranationalistes, Claude Herman et Jérémy Mourin. L'entretien avait été de courte durée, se résumant en quelque sorte à une demande de renseignement. Cette piste avait été abandonnée, faute d'éléments probants. Avec ces arrestations, les proches d'Hervé Rybak-Zik reprennent espoir. On va enfin connaître la vérité. On savait qu'il ne s'était pas suicidé. On va pouvoir panser nos plaies. Quand je pense qu'on aurait pu passer notre vie entière dans l'incertitude, confie une amie du musicien. Thomas Status, vous avez mené l'enquête sur les morts de la Deule et vous êtes notre invité ce soir dans le studio de l'heure du crime. Je le disais, la sécurité publique lilloise, pas les gendarmes, bien avant les gendarmes, a été très tôt sur la piste des skins de l'ultra-droite dans au moins un de ces cas, une de ces morts de la Deule. Pourquoi on s'est arrêté en si bon chemin, j'ai envie de dire ?
J'aimerais bien avoir une réponse pour vous, mais...
Vous ne l'avez pas.
À vrai dire, je ne l'ai pas. En fait, ce qui se passe à cette époque-là, c'est qu'un renseignement parvient aux renseignements territoriaux, les renseignements généraux, les renseignements territoriaux, bon bref, parvient à...
À l'époque encore les RG, je pense.
Les RG. Et ce renseignement fait son chemin, comme il devrait le faire, jusqu'au service d'enquête, qui effectivement, ce tuyau indiquerait que, sans d'éléments forcément précis, une bande de skinheads qui, à l'époque, s'était constituée à Lille, serait pas étrangère à ce qui se serait passé ce soir-là. Et effectivement, les enquêteurs interrogent 3 personnes, donc Johan Muth, Jérémy Mourin et Claude Herman, et plus particulièrement les 2 premiers, qui sont, on va dire, les plus jeunes et les plus habitués du coup de poing.
Comment est-ce qu'on fait le lien entre cette mouvance de l'ultra-droite, dont vous parlez d'ailleurs longuement dans votre ouvrage, comment est-ce qu'on fait le lien plus précisément avec Hervé Rybak-Zik ?
Il n'y a pas... Hervé Ribarzi, qui était un musicien, il a souvent été présenté comme quelqu'un de très militant, donc on réduisait effectivement ce cas-là...
À gauche, hein,
plutôt à gauche. Mmh. Comme, on va dire, un règlement de compte entre militants de gauche et de droite, ce que réfutent d'ailleurs ses proches en disant qu'évidemment, son cœur penchait plus à gauche qu'à droite, musicien de punk, habitué du milieu underground lillois, mais probablement qu'il était identifié comme tel, et c'est du moins ce que pensent les enquêteurs à ce moment, notamment au moment de la réouverture de l'enquête, qui advient suite aux confidences de Jérémy Mourin, et que quelque chose aurait pu mal se passer suite à une rencontre fortuite, non loin de la Deule ce soir-là.
Alors il y a un personnage central dans cette mouvance d'ultra-droite qui apparaît, c'est Johan Muth. Qui est-il ?
Alors Johan Muth est un skinhead lillois assez connu, puisqu'il a été impliqué dans plusieurs affaires, notamment l'affaire du vice-versa, qui est l'agression...
Le fameux bar, c'est ça ?
C'est l'agression de ce barguet, qui est un des barguets les plus connus de la métropole, qui se passe en 2013, où, pour resituer un peu les faits, c'est à l'issue d'une manif contre le mariage homosexuel que lui et plusieurs camarades se retrouvent face à ce bar, et de là éclate une bagarre, et d'ailleurs il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Pour cette bagarre, ouais. Franck Hanson, notre correspondant RTL à Lille, j'ai envie de dire qu'il y a presque tout le gratin des skins du Nord qui apparaît dans cette histoire de la Deule. Ces personnes qu'évoque Thomas Status, elles sont bien connues, non, dans le milieu,
oui,
à l'époque.
Alors... En quelque sorte, oui. Alors, c'est des gens qui sont assez discrets, hein, qui sont toujours très couverts par la loi, en quelque sorte, qui sont très à la limite de la loi, justement. Des jeunes identitaires de la région lilloise, avec des idées, évidemment, d'extrême droite, qui se retrouvent notamment à la Maison Flamande, du côté de Lambersart, c'est tout près de Lille. Une sorte un centre d'inspiration nationaliste avec Claude Hermant, un personnage sulfureux, ancien militaire, avec des anciens du Front National... des franges radicales, voilà. Donc tous ces gens-là gravitent dans ce dossier. Il y a certaines rumeurs aussi qui laissent entendre que ils ont des protections policières, même si ça n'a pas pu être prouvé. Voilà. Donc c'est toute cette mouvance qui commence à arriver dans ce dossier avec beaucoup d'interrogations finalement.
Oui, beaucoup d'interrogations et puis de la surprise aussi, parce qu'effectivement peut-être on ne s'attendait pas à avoir de tels personnages dans ce dossier. Alors question difficile, Franck Hanson. Et puis je la poserai également ensuite à Thomas Status. Quand il y a ce rebondissement, on se dit que ça y est, ça va peut-être s'étendre et que finalement tous les cas vont être réglés.
Oui, en tout cas, il y a un espoir pour les familles des victimes. À l'époque, je me souviens, j'avais interrogé la sœur de Thomas Ducrot, l'une des premières victimes. Elle avait dit qu'il y avait un espoir vraiment qui arrivait à ce moment-là, parce que pour eux, ils n'avaient jamais cru, ils ne croyaient pas à la thèse accidentelle. Et ils disaient que peut-être, là, s'il y a matière à fouiller, même s'ils ne remettaient pas en cause la thèse, l'enquête policière qui avait quand même été importante, qui avait été fouillée, voilà, il y avait quand même cet espoir. Qui commençait à arriver en se disant bon, finalement peut-être
ça avance, ça avance,
ça avance, quoi.
Oui,
voilà.
Ça avance.
Il y a quelque chose qui commence à arriver.
Tout à fait. Thomas Status, vous êtes d'accord avec l'analyse de Franck Hanson, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça va peut-être bouger là, ça y est, on tient une piste, on tire un fil.
Oui, je pense qu'on a le sentiment à cette époque-là qu'il y a un fil qui va peut-être se dérouler. Votre correspondant parlait de la famille Ducrot, mais je pense que les amis aussi de Lloyd Andrieux, par exemple, à l'époque, se disent qu'en tant qu'étudiant, lui aussi qui cachait pas sa sensibilité plutôt de gauche à l'époque et d'étudiant, il aurait pu tomber en fait sur cette bande de skinhead de la nuit, mais il se trouve qu'assez rapidement effectivement l'enquête est encore plus embrouillée qu'elle ne l'était et qu'on n'arrive pas à une réponse définitive. Notamment parce qu'on se rend compte que probablement Jérémy Mourin, l'homme par qui l'affaire a rebondi, a pas été parfaitement honnête sur son implication dans l'histoire à l'époque.
Il n'a pas tout dit, c'est ça. Enquête complexe qui va se poursuivre, la piste de l'ultra-droite étant la seule à faire un lien criminel avec les noyés de la Deule. Reste à savoir, malgré les mises en examen et de nombreuses déclarations, si cette piste éclairera le dossier d'un jour nouveau. Les morts oubliés de la Deule, quand l'ombre des skinheads se profile sur le canal. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, les morts de la Deule, 5 hommes retrouvés noyés dans ce canal qui traverse l'île. Officiellement des accidents, sauf pour la 5e victime qui aurait été volontairement jetée à l'eau. Déclenchée en 2017, l'enquête des gendarmes va plonger dans les milieux skinhead et ceux de l'ultra-droite, s'intéresser à une poignée d'hommes qui pourraient être derrière la mort du guitariste Hervé Ribarzik. Malgré leurs efforts et le recueil de déclarations et de confidences, les enquêteurs ne vont pas être en mesure de reconstituer le scénario exact de la mort du musicien. Celui qui a longtemps fait figure de principal suspect dans cette affaire, le Lillois Johan Muth, est remis en liberté le 20 avril 2018 par le juge des libertés et de la détention, relâché faute d'éléments incriminants. Muth a été placé sous contrôle judiciaire. L'enquête des gendarmes est toujours ouverte. Les quatre autres noyades de la Deule trouveront-elles, elles aussi, des prolongements criminels? Au mois de mai 2017, la gendarmerie affirmait que rien n'était exclu et que les vérifications sur ces quatre dossiers classés allaient avoir lieu. Un espoir, un de plus, pour toutes les familles qui n'ont jamais cru à la thèse de l'accident. À ce jour, l'enquête n'a toutefois pas apporté d'éléments probants susceptibles de faire la lumière sur les noyés de la Deule. Thomas Status, auteur d'une enquête sur ce sujet et sur ce dossier, on peut dire qu'aujourd'hui l'enquête est au point mort.
C'est assez difficile à savoir pour le coup sur Hervé Ribarzik, effectivement, qui a été le cas par lequel l'enquête a redémarré. Il y a des éléments qui ont affleuré qui montrent effectivement que pour le coup les gendarmes n'ont pas déménagé leur peine et ont fait des investigations assez précises dans le milieu de l'ultra-droite, effectivement. Pour le coup, ce qui est apparu également aussi, c'est que de leur investigation est sortie l'idée que le dossier Ribarzik est un peu à part. Par sa localisation, c'est-à-dire que c'est pas exactement au même endroit que les autres, c'est plus à l'extérieur de l'île. Et effectivement, sur ce dossier, il y a eu des avancées qui n'ont pas permis de répondre. Pour les autres, c'est plus compliqué d'avoir des éléments. Les familles, pour le coup, c'était une demande de pas mal d'entre elles d'être entendues par le juge d'instruction nouvellement saisi d'enquête. Elles ne l'ont toujours pas été, à ma connaissance.
Ce n'est plus le juge Gentil qui est aux commandes du dossier. Donc le nouveau juge, pour l'instant, n'a pas communiquer avec les familles.
À ma connaissance, pour le moment et au moment du bouclage du livre, effectivement, il n'y avait pas eu d'interrogatoire de la part des familles, qui était pourtant une demande, évidemment. Sachant qu'une des difficultés pour le coup judiciaire, c'est que les familles à l'époque ne s'étaient pas portées partie civile aussi dans ces dossiers. Ça a été une constitution assez tardive, puisque si c'était une mort accidentelle, il n'y avait pas forcément, à leur sens à l'époque, de nécessité de le faire.
C'est ça, de se porter partie civile, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ils ont un accès normalement au dossier si le dossier se remet à bouger. Alors dans votre livre, vous donnez tout de même un scénario qui est apparu en filigrane de la mort de Hervé Ribarzik. On a quelques détails comme ça qui ont pu remonter au fil des témoignages, qui ne sont pas corroborés d'ailleurs, des témoignages de skinhead. Mais
ce qui est établi, il y a effectivement une histoire et une question centrale. L'histoire, c'est qu'Hervé Ribarzik sort de ce bar qui s'appelle La Chimère, qui est, comme vous le dites, un bar en vraiment à la limite de l'île et de sa périphérie. Et il sort de ce bar et il se rend, encore une fois, pour une raison qu'on ne comprend pas forcément, non loin du canal de la Deule et plus particulièrement du port fluvial, qui est pour le coup là un endroit pas du tout de balade, qui est un endroit où il y a des entrepôts, où les péniches déchargent leurs marchandises. Et ce qu'ont établi les gendarmes au fil de nombreuses investigations, c'est qu'à minima, on sait que Hervé Ribarzik a croisé la route de Johan Muth, qui était le principal suspect dans l'enquête, et de deux autres jeunes garçons, plutôt proches, on va dire, de la mouvance d'extrême droite, mais aussi qui fréquentaient les tribunes du stade de foot du LOSC, et notamment de ces tribunes les plus ultra. Là, une altercation éclate, pour des raisons plus ou moins politiques. Ribarzik était looké un peu comme un gauchiste, dirait-il, avec des bracelets, frappé du cercle de signes anarchistes. Et donc, à partir de là, il y a une altercation dont on ne sait pas exactement sur quoi elle a découlé. Les skinheads, eux, disent qu'ils sont partis et personne n'a d'autres explications à fournir sur la suite des événements, du moins pour Hervé Ribarzik.
Dans tout cas, il y a une trame qui existe de la mort de Ribarzik, dont on a dit d'entrée que c'était un suicide. Franck Hanson, notre correspondant à Lille, c'est toujours une histoire qui marque les imaginations à Lille. Ça reste un traumatisme ?
Oui et non, hein, en quelque sorte. On peut dire que la psychose aujourd'hui, honnêtement, est un peu retombée, hein, même si
avec le temps, bien sûr.
Les générations d'étudiants ont changé. Certains ne sont pas tous au courant de cette histoire, même si il y a une sorte de traumatisme qui reste quand même, notamment évidemment pour les familles des victimes, pour certains proches qui sont toujours mobilisés et qui ne se satisfont pas finalement de cette thèse accidentelle qui reste confirmée au moins pour 4 sur 5 quoi, finalement.
Alors même question pour tous les deux et question difficile. Est-ce que vous pensez, Franck, que finalement on a conclu trop vite à des accidents et qu'on s'est un peu précipité, peut-être qu'il y avait d'autres pistes à creuser?
C'est difficile à dire parce qu'il faut reconnaître quand même que l'enquête a été très fouillée et très forte. Hein. Il n'y a pas eu de bornage de téléphone, il y a eu la surveillance, les traces vidéo, il n'y a pas eu d'images vidéo qui ont été retrouvées, pas de traces de coups. Donc vraiment, tout ce qui est anomalie, enquête suspecte, il n'y a rien qui a vraiment parlé. Reste le cas particulier, le cas à part, on va dire, de Rybarczyk, dont on a beaucoup parlé. On peut dire que ce serait presque une triste loi des séries, hein, finalement, au moins pour ces quatre jeunes qui étaient sous l'emprise de l'alcool, même s'il y a toujours ce qui sera toujours dur à reconnaître pour les familles des proches, une part de zone d'ombre.
Bien sûr, et c'est effectivement troublant que ces jeunes gens tombent tous quasiment au même endroit et dans un laps de temps très réduit. Ça, effectivement, on ne pourra pas l'enlever, ça, c'est une des interrogations qui va rester dans cette affaire. Thomas Status, il y a un petit mot sur les autopsies, parce que là, moi, je comprends pas très bien. On sait pas vraiment de quoi sont morts ces jeunes. Si, quand je vous lis, hein, je lis votre enquête.
Je pense que c'est un point effectivement important, mais qui se retrouve dans pas mal de dossiers de noyés, pour le coup. C'est un raisonnement un peu par l'absurde, c'est-à-dire en recherchant les causes de la mort dans certains des cas, on se rend compte que la seule chose qui pouvait l'expliquer, effectivement, est une noyade accidentelle. Ceci dit, les analyses sont pas forcément probantes dans tous les cas, et c'est un peu le paradoxe avec lequel on se retrouve, c'est que médicalement, c'est difficile pour certains des cas de dire qu'il s'agit de noyés. Bien qu'on les ait retrouvés dans l'eau.
On ne peut pas l'affirmer à 100%.
On ne peut pas l'affirmer à 100%.
C'est ce que dit la médecine légale. Je vous repose la question que j'ai posée à Franck Hanson. Franck, il est plutôt mesuré. Lui, il dit il y a le cas Rybarczyk d'un côté qui est différent. Et puis, il y a l'autre série. Vous êtes d'accord avec ça ou bien vous pensez qu'on est allé trop vite avec la thèse de l'accident tout de suite?
Je pense que le cas Rybarczyk, pour le coup, montre qu'on est allé trop vite par rapport à la thèse de l'accident. C'est qu'effectivement, il faut se rappeler aussi que le cas Rybarczyk est un cas qui a été complètement oublié. C'est-à-dire que pour le coup, il y a eu assez peu de couverture de presse à l'époque. Il y a une petite nécrologie très rapidement publiée. Mais je veux dire, ce cas-là montre pour le coup, effectivement, qu'on est allé trop vite. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, les mêmes personnes sont derrière chacun de ces décès suspects. Ceci dit, le cas Rybarczyk interroge forcément, puisque l'élément Skinhead qui redéclenche l'ouverture de l'enquête a à la fois été présent, comme vous l'avez dit, dès 2012, mais à la fois a été ignoré assez rapidement.
Il y aura un procès un jour, Thomas Status, il y aura une audience, puisque là, il y a quelqu'un encore mis en examen, etc. Donc, on peut peut-être espérer...
Il n'y a pas eu d'ordonnance de renvoi ou de non-lieu pour le moment.
Merci beaucoup, Thomas Status et Franck Hanson, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec les morts oubliées de la Deule, des noyades qui se ressemblent étrangement. Et je dois dire, nous font douter. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.